Chapitre 41.
C'est Hamilton, dit Bobby en entraînant Didier hors du garage de Léonie pour regagner leur voiture au pas de course.
Hamilton? On parle bien de Hamilton, le lieutenant-colonel de la police d'État?
Exact. Il a les entrées, l'occasion, il connaît toutes les parties prenantes. Peut-être que la passion du jeu de Brian a tout déclenché, mais c'est Hamilton, le cerveau de l'affaire.
Les gars, vous avez besoin d'argent? Figurez-vous qu'il y a tout un magot qui dort là à ne rien faire.
Entre lui et Shane,
murmura Didi. Elle hochait la tête parcourue d'un premier frisson d'excitation. Un nom, un suspect, une cible. Elle monta en voiture et Bobby s'engagea sur la chaussée, filant déjà vers l'autoroute.
« C'est ça, » dit-il. « Pas bien difficile de comprendre comment on monte une société écran et Hamilton tirait les ficelles de l'intérieur pour effacer leurs traces. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. » Une fois l'enquête interne ouverte, leur jour était compté. Des enquêteurs d'État commençaient à mettre leur nez dans leurs affaires et grâce à Shane et Brian, qui continuaient à trop jouer, ils avaient aussi des truands de tout poil qui voulaient une part du gâteau. Évidemment, Hamilton s'est inquiété. Et Brian et Shane sont passés du statut de complices à celui de facteur de risque dont ils pouvaient parfaitement se dispenser.
Hamilton aurait tué Brian et kidnappé Sophie pour que Tessa avoue le meurtre de son mari et soit accusée d'avoir détourné l'argent du syndicat? S'interrogea Didi.
À moins que ce ne soit un homme de main. Le genre de truand que Brian s'était déjà mis à dos. Le genre de type prêt à commettre un dernier meurtre pour rentrer dans ses fonds.
Le genre de type qui aurait posté des photos de la famille de Shane en guise d'avertissement, ajouta Bobby.
C'est toujours comme ça avec les gradés, dit Didi.
Ils sont très forts pour avoir des idées, mais ils n'aiment pas se salir les mains pour les mettre à exécution.
Elle eut un instant d'hésitation.
Si on suit cette logique, où est Sophie?
Est-ce qu'Hamilton prendrait le risque de séquestrer lui-même une petite fille de 6 ans?
Je ne sais pas. Mais je te parie que si on lui tombe sur le rable sans prévenir, on aura la réponse. Il doit être en ville, sur les lieux du meurtre de Lyons, à papoter avec le colonel et les autres gradés.
Didi hocha la tête, puis attrapa Bobby par le bras.
Il n'est pas là-bas. Tout ce que tu veux.
Pourquoi?
Parce que Tessa est en cavale. Nous le savons, il le sait. Et maintenant, il doit aussi être au courant que le fusil et la carabine M4 de Lyons ont disparu. Donc il sait que Tessa est armée jusqu'aux dents. Dangereuse, et qu'elle cherche à tout prix à localiser sa fille.
Il est en fuite, conclut Bobby, pour échapper à son propre agent.
Mais ce fut alors son tour d'avoir une objection.
Non, pas un type aussi expérimenté et rusé que Hamilton. La meilleure défense, c'est l'attaque, non?
Il est parti retrouver Sophie. Si elle est encore en vie, il va remettre la main sur elle. Elle est la seule monnaie d'échange qui lui reste.
Mais où est-elle? Demanda encore une fois Didi. « Ça fait 3 jours qu'on a une alerte enlèvement en vigueur dans tout l'État. Il y a sa photo sur tous les écrans de télé, son signalement à la radio. Si elle était dans le coin, on devrait avoir une piste à l'heure qu'il est. »
« Ce qui signifie qu'elle est enfermée sous contrôle étroit, »
réfléchit Bobby. « À la campagne, sans voisin immédiat, avec quelqu'un chargé de la garder sous clé, dans un endroit inaccessible mais bien approvisionné. Un lieu dont Hamilton pense qu'il ne sera jamais soupçonné. »
Il n'aurait jamais planqué Sophie dans sa maison, trop proche de lui. Et s'il était chez un ami d'amis, ou dans sa résidence secondaire? On a vu des photos de lui où il chasse le chevreuil. Est-ce qu'il aurait un pavillon de chasse à un chalet dans les bois?
Banco, dit Bobby en souriant. Hamilton a un chalet près du mont Greylock, à l'ouest de l'État, à 2h30 de route du QG de la police, blotti au pied des Berkshire. Isolé, contrôlable et suffisamment loin pour qu'il puisse nier avec une certaine crédibilité. Même si le chalet lui appartient, il peut affirmer qu'il n'y a pas mis les pieds depuis des jours ou des semaines, surtout avec tous les événements qui ont exigé son attention à Boston.
« Tu saurais nous y emmener ?» demanda aussitôt Didi.
Bobby hésita. « J'y ai été 1 ou 2 fois, mais ça remonte à des années. Il lui arrive d'inviter des collègues pour des week-ends de chasse, ce genre de choses. Je revois les routes.
« File !» dit Didi en attrapant son téléphone portable.
« Prends le pike, je vais nous trouver l'adresse. »
Bobby mit le gyrophare et fila pied au plancher vers le pike, la route la plus directe, pour traverser tout l'État. Didi composa le numéro du commissariat central. Il était plus de minuit, mais police municipale ou police d'État, personne ne dormait cette nuit-là. Phil décrocha dès la première sonnerie.
« T'es au courant pour Lyons ? » demanda-t-il en guise de bonjour.
« On en vient. J'ai une mission délicate pour toi. Je veux savoir tout ce qu'il y a à savoir sur Gérard Hamilton. Fais des recherches sur les noms de ses proches aussi. Je veux toutes les adresses connues et ensuite un bilan financier complet. »
Un silence. « Le lieutenant-colonel de la police d'État, tu veux dire ?» demanda Phil avec circonspection.
« Je t'avais prévenu que c'était délicat. »
Didi entendit un cliquetis, les doigts de Phil qui couraient déjà sur le clavier.
« Tiens, si tu veux une information officieuse, même pas un ragot de machine à café, plutôt le genre pissotière, » proposa Phil en pianotant.
« Je ne demande que ça.
J'ai entendu dire que Hamilton s'était trouvé une poulette, une Italienne au tempérament volcanique.
Son nom ?»«
Aucune idée. Le type ne m'a parlé que de son arrière-train.
Les hommes sont des porcs.
En ce qui me concerne, je suis un porc qui aime sa femme et qui a besoin qu'elle survive à 4 enfants, alors je ne me sens pas visé. »
« Tu fais bien, » lui accorda Didi. « Commence à creuser, Phil. Donne-moi ce dont j'ai besoin parce qu'on pense qu'il séquestre peut-être Sophie Léonie. »
Didi raccrocha. Bobby arriva à la bretelle de raccordement vers le pike. Il la gravit à 110 à l'heure et ils prirent le virage sur les chapeaux de roue. Les routes étaient enfin déneigées et la circulation était fluide à 7 heures de la nuit. Bobby accéléra jusqu'à 160 sur la large autoroute plate qui les catapultait vers l'ouest du Massachusetts.
Ils avaient plus ou moins 200 kilomètres à faire, songea Didi, dont une partie où il faudrait lever le pied.
« 2 heures, » estima-t-elle, « 2 heures avant, enfin, de sauver Sophie Léonie. »
« Tu crois que c'est une bonne policière ?» demanda soudain Bobby.
Didi n'eut pas besoin de lui demander de qui il parlait.
« Je ne sais pas. »
Bobby quitta des yeux la nuit noire qui défilait à vitesse grand V pour jeter un regard vers elle.
« Jusqu'où tu serais prête à aller ?»
demanda-t-il d'une voix douce en baissant les yeux vers le ventre de Didi.
« Si c'était ton enfant, jusqu'où tu serais prête à aller ?»«
J'espère ne jamais avoir à les découvrir. »«
Parce que moi, je les tuerais tous, » déclara-t-il tout net en crispant et décrispant les mains sur le volant. « Si quelqu'un menaçait Annabelle, kidnappait Karina, il n'y aurait pas assez de munitions dans tout l'État pour ce que je voudrais leur faire. »
Didi ne doutait pas une seconde de ce qu'il disait, mais elle n'était quand même pas d'accord.
« Ce n'est pas bien, Bobby. Même si on te provoque, même si c'est l'autre qui a commencé, ce sont les criminels qui recourent à la violence. Nous sommes policiers. Nous sommes censés être raisonnables. Si nous ne sommes même pas capables de respecter ces règles, qui pourra ?»
Après cela, ils roulèrent en silence. Écoutant le ronflement rauque du moteur poussé à son maximum, ils regardaient les lumières de la ville fuser comme des éclairs.
« Sophie, » pensa Didi, « on arrive. »